Merci, merci beaucoup, monsieur. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais essayer de travailler sur ces figures, l'enfant roi et l'enfant bouc émissaire, dans un contexte que celui de l'organisation consumériste de la société, qui, je crois, qui s'est mise en place il y a fort longtemps. Je ne vais pas en parler maintenant, on n'en a pas le temps. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler déjà dans votre organisation, je crois, en tout cas dans un article, un entretien que j'avais donné, qui, je crois, a conduit à un processus d'infantilisation généralisée, que l'on peut observer d'ailleurs en France et en Italie, à un niveau extrêmement élevé, on pourrait même dire au sommet de l'État. Infantilisation qui désigne toujours, quand on emploie ce mot d'infantilisation, non pas le devenir enfant de l'enfant, bien entendu, mais la régression de l'adulte au stade infantile, et dont on peut poser que cela constitue le pire des dangers pour un enfant. Vivre dans une société d'adultes infantilisés, il n'y a, à mon avis, rien de plus dangereux pour l'enfant. L'enfant roi, eh bien aujourd'hui, c'est au sommet des États qu'on le trouve. Il casse ses jouets les uns après les autres, il fait tel caprice, et puis ensuite il décide autre chose, etc. Et ceux qui trinquent, ben ce sont les enfants qui ne règnent pas, parce qu'eux deviennent des boucs émissaires. C'est évidemment préoccupant, parce que le sommet de l'État, c'est en principe ce que tout le monde vise comme étant un idéal d'une façon de vivre, et en particulier les enfants, bien entendu. Ça doit être, le sommet de l'État est en principe représentatif d'une exemplarité comportementale. Et aujourd'hui, ce sommet, mais je parle dans toutes sortes de pays, il n'y a pas que la France et l'Italie, on pourrait dire que c'est presque partout, d'une certaine manière, est atteint, comme toute la société, par un processus de régression. En fait, c'est le sujet dont je vais essayer de vous entretenir ici, c'est la question de la régression contemporaine, dont l'infantilisation est un aspect extrêmement frappant, mais qui n'est pas le seul, malheureusement. Alors, cette régression, je crois qu'elle est devenue, à notre époque, c'est là que les choses sont très complexes, un principe fondamental de la politique, mais aussi de l'économie. Elle est devenue, pour des raisons que je ne n'argumenterai pas en détail, mais que je vais rappeler en 2 minutes, elle est devenue un fait parce que l'exploitation du désir par le consumérisme organisé au niveau industriel, d'abord aux États-Unis, puis en Europe occidentale et aujourd'hui dans le monde entier, avec des moyens industriels de masse absolument colossaux, a conduit à une destruction des mécanismes de transformation des pulsions en désir et a bloqué les mécanismes de transformation de la pulsion en désir, c'est-à-dire de l'automatisme se transformant en investissement social, puisque la pulsion est un comportement automatique que nous partageons avec les animaux, tandis que le désir, c'est un comportement d'investissement et délibératif et singulier. Et je pense que je vais y revenir un peu plus précisément tout à l'heure, l'économie consumériste a progressivement conduit à la liquidation de toutes les structures qui permettent la transformation des pulsions en désir, c'est-à-dire de ce qui est antisocial, la pulsion est antisociale, en quelque chose qui est intrinsèquement social. Le désir est social. On confond malheureusement très souvent désir et pulsion, encore aujourd'hui, même chez certains psychanalystes, ce qui est quand même tout à fait regrettable. Cet état de fait, que je soutiens, que bien entendu on peut me contester, fait l'objet de très nombreuses dénégations. Très souvent, d'ailleurs, la régression est accompagnée par la dénégation. Je prends des termes qui viennent effectivement de la psychologie, en particulier de la psychanalyse. Et cette dénégation conduit aussi, je le crains, à des démissions intellectuelles. On n'ose pas analyser les processus régressifs, parce que si on commence à analyser les processus régressifs, alors on risque de devenir quelqu'un soupçonnable de comportement réactionnaire. Par exemple, on va se mettre à plaider la cause de la famille, en disant, mais il ne faut pas détruire la structure familiale, c'est une institution fondamentale. On va dire, ah ben voilà, c'est Luc Ferry. Voilà, Luc Ferry qui plaide Famille, je vous aime, vous savez, contre tout ce qui est l'esprit 68, qui avait... Bon, un exemple pour moi problématique dans ce champ d'une personne que je respecte éminemment par ailleurs, c'est Maurice Baudelier, par exemple, qui dit « Mais non, non, il ne se passe rien, tout va bien, il n'y a pas de processus de régression, il n'y a aucun danger sur ces... » Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est Maître Henri Leclerc, qui a d'ailleurs été mon avocat, qui est un très grand avocat d'assises, que je connais un petit peu, et que j'ai lu un article de lui, il n'y a pas très longtemps, disant « Non, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de comportement qui échappe au contrôle, etc. » Mais bien sûr que oui, qu'il y en a. Et ce n'est pas en niant qu'il y en a que l'on va pouvoir combattre les propositions juridiques régressives. Ce n'est certainement pas en niant la réalité qu'on peut s'opposer à une façon d'aggraver la réalité. Je ne suis pas du tout d'accord avec Maître Leclerc, qui soutient que rien n'a changé dans le comportement des enfants et des adolescents. Bien sûr que oui, que beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, ça n'arrête pas de changer depuis l'origine de l'humanité. L'humanité change. Et en ce moment, elle régresse. Cette régression dont les enfants font les frais, parce que nous, les adultes, régressons, et il y a un ordre de causalité, et je pense qu'il faut le poser comme tel, il conduit à une régression juridique. Cette régression politique, cette régression économique engendre une régression politique qui elle-même engendre une régression juridique. C'est évidemment inévitable, puisque la fonction du politique, c'est avant tout d'être un législateur. Et en tant que législateur, donc, qu'il prononce la loi, qu'il énonce la loi, qu'il la propose, eh bien, s'il est régressif lui-même, il conduit forcément une régression du côté de la loi. Et cette régression, elle a aussi des aspects psychiques, et des aspects de vocabulaire extrêmement intéressants, comme par exemple, on parle de décomplexion, il faut décomplexer un certain nombre de choses. Voilà, ça serait intéressant d'analyser qu'est-ce que veut dire décomplexer. Et ça, c'est une très très mauvaise, une des pires manières de comprendre ce que c'est que la cure psychanalytique, c'est de croire qu'elle va décomplexer celui qui a un complexe. En aucun cas, la cure psychanalytique ne décomplexe celui qui a un complexe. Le complexe est constitutif du social. C'est ce qui fait que le social est d'ailleurs complexe, compliqué, et qu'on ne peut pas le simplifier, et cette simplification-là s'appelle le populisme. Aujourd'hui, c'est ça, ce processus qui s'exerce sur le système juridique. Et il s'exerce d'une manière extraordinairement complexe et retorse. Et il s'exerce contre lui-même d'une certaine manière, parce que je soutiens, en tout cas, que certains responsables, très hauts responsables politiques, par exemple M. Berlusconi en Italie, constitue un processus de discrédit contre la figure du politique même, parce qu'ils occupent cette position politique pour discréditer le politique lui-même. Il s'agit, chez ces acteurs politiques, de ruiner le politique lui-même, c'est-à-dire le droit. Parce que le politique, c'est d'abord le droit. Il s'agit en particulier de nier la distinction entre majorité et minorité. Au sens, j'emploie ces termes au sens d'Emmanuel Kant d'abord, au sens où pour Emmanuel Kant, la majorité est un état politique qui se gagne aussi en passant à l'âge adulte, et qu'on ne peut pas séparer ces questions-là, politique des âges, et aussi majorité au sens où Condorcet pose la majorité comme un exercice démocratique avec des lois majoritaires. Alors, vous savez certainement, tout le monde a entendu parler de ce chiffre assez éloquent, qui a circulé depuis déjà presque 2 ans, diffusé par le cabinet BVA, que 43% des actes d'achat sont prescrits par les enfants. C'était il y a 2 ans, c'est peut-être plus maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? Dans une société consumériste où l'acte d'achat est l'acte fondamentalement social, où il n'y a pratiquement plus que ça comme acte social, puisque tout est à vendre, ça signifie que les modes de vie sont prescrits par les enfants. Et je dirais déterminés par les enfants, mais non pas décidés par les enfants. Ils ne peuvent pas être décidés par les enfants, parce que pour prendre des décisions, il faut être majeur. Précisément, un enfant ne décide pas de quelque chose. Et c'est ça la question de la majorité chez Kant. C'est-à-dire que pour pouvoir prendre des décisions, il faut avoir accédé à un niveau que Kant appelle la majorité, et qui s'appelle aussi la raison. L'accès à une certaine raison qui est une certaine économie comportementale. qu'il s'agit de court-circuiter dans le modèle consumériste, c'est justement la majorité. Parce que la majorité est critique, elle est résistante aux injonctions du marketing, par exemple, et du coup, il faut l'infantiliser pour elle-même la discréditer. C'est un processus systémique. Ça n'est pas du tout une volonté délibérée et malfaisante par pure méchanceté, mais c'est une nécessité du système. Le système doit faire tomber toutes les barrières qui empêchent une circulation des marchandises et une rotation des stocks les plus rapides possibles. Et du coup, il y a un processus qui se met en place, lentement mais inéluctablement, de discrédit porté non seulement sur la fonction politique du plus haut niveau, mais sur la majorité, et en particulier la majorité des parents. Discrédit aux yeux des enfants. Et cette parentalité, comme on l'appelle parfois dans le monde de la psychologie, devient incapable de jouer son rôle, parce qu'elle a face à elle des organismes colossaux, des entreprises audiovisuelles énormes, et maintenant toute une partie de l'Assemblée nationale d'ailleurs, qui les dévalorise, hein, d'une manière systématique. Certains par des processus de marketing très complexes, d'autres par des discours dont je vais parler tout à l'heure. Du coup, incapable de jouer son rôle, elle devient impuissante. À proprement parler impuissante, et elle sombre elle-même dans ce que j'appelais tout à l'heure l'infantilisation, sachant que ce qui est extrêmement grave dans cette destruction de la différence entre majorité et minorité, puisque c'est de ça dont il s'agit, bien entendu, hein, c'est que derrière cette différence, c'est la différence entre le fait et le droit qui s'efface. Car ce à quoi donne accès la majorité comme capacité de responsabilité citoyenne, raisonnable, etc., c'est de faire la différence entre le fait et le droit. De fait, nous sommes tous des brutes, nous sommes tous des barbares, nous sommes tous pulsionnels. En droit, nous n'avons pas le droit d'être ainsi. Aucun état de fait ne nous donnera le droit jamais de dire que la justice est quelque chose de négligeable. Même s'il n'y avait plus que des barbares sur la terre, le seul qui resterait encore un tout petit peu majeur devrait continuer à affirmer le droit. Eh bien ça, c'est ce qui organise en principe les rapports intergénérationnels, en tout cas dans une société démocratique et raisonnable, et une société dite de droit, et c'est ce qu'on est en train de menacer de manière très grave. On est en train de le menacer parce que le développement du consumérisme a conduit à la destruction de ce que j'appelle les appareils de production de l'énergie libidinale. L'énergie libidinale, c'est quelque chose qui a été théorisé par Sigmund Freud, il y a plus d'un siècle maintenant. Vous le savez peut-être, c'est ce qui a été aussi ensuite, non pas théorisé, mais pratiqué par le neveu de Sigmund Freud, il s'appelait Edward Bernays, et qui a été le fondateur du marketing aux États-Unis. Aux États-Unis, il a été compris au début du XXe siècle que la seule manière de lutter contre l'effondrement du taux de profit du capital, c'était d'augmenter la consommation tant et plus, selon une loi qui a été appelée par un économiste, Joseph Schumpeter, la destruction créatrice, conduisant lentement mais certainement à ce que les gens adoptent de plus en plus rapidement des comportements consommatoires. Et pour faire qu'ils adoptent ces comportements consommatoires, il a fallu canaliser leur attention avec des moyens industriels de captation. Et progressivement, cette captation de leur attention a court-circuité tous les dispositifs de ce que j'appelle la formation de l'attention. Vous savez, les juges pour enfants doivent le savoir encore mieux que n'importe quel parent, j'en suis un, j'ai 4 enfants, vous savez que le travail d'un parent, le rôle d'un parent, c'est de former l'attention de son enfant au sens où il s'agit de canaliser toute cette énergie extraordinairement prometteuse mais destructrice que représente un enfant. Un enfant, c'est avant tout cette énergie-là. Et qui est foncièrement pulsionnelle, il s'agit progressivement, comme dit Freud, de la lier, cette énergie, de lier ces pulsions, et de la lier vers des objets d'amour qui ne sont absolument pas des objets de pulsion, qui ne sont pas du tout des objets de consommation, ce sont des objets d'investissement. Aimer sa maman, aimer son papa, aimer son instituteur, aimer son copain, aimer sa fiancée, aimer ses enfants, aimer Dieu, aimer la loi, aimer la patrie, aimer tout ce que vous voulez. Ce dont Max Weber, un théoricien, un philosophe allemand qui a fait la théorie de la genèse du capitalisme, dit que c'est la condition de fonctionnement du capitalisme. Par ailleurs, avec la force du capitalisme, c'était de savoir tirer cet amour vers des fonctionnements, non pas de consommation de marchandises, mais d'investissement dans le travail, le berouf, la vocation au travail. Bon. Un grand économiste américain, avec lequel je suis loin d'être toujours d'accord, mais qui est très connu, qui s'appelle Jeremy Rifkin, avait publié un livre il y a quelques années en disant le rêve américain est devenu un cauchemar américain parce qu'il détruit ce berouf maintenant, il détruit cet investissement. Il n'est plus que consommation absolument addictive, aveugle, et peut-être que vous le savez, mais j'en doute en réalité parce que ce chiffre ne circule étrangement pas du tout. 81% des Américains ont déclaré en 2007 que la consommation était devenue une calamité, une plaie pour l'Amérique. Pour eux, pour leurs enfants, pour leur pays. 81%. Ce qui veut dire que beaucoup, beaucoup de gens, en réalité, même aux États-Unis, qui est le pays de la consommation par excellence, sentent que tout ça est devenu très mauvais, très toxique, les inquiète, en particulier d'ailleurs, par rapport à leurs propres enfants, parce qu'ils sentent que quelque chose leur échappe. Dans ce contexte-là, où on a liquidé les appareils de transformation de la pulsion en énergie binale, c'est-à-dire en désir, c'est-à-dire en amour, c'est-à-dire en fidélité, c'est-à-dire en investissement social. Parce qu'on a organisé cette déliaison des pulsions pour exploiter ces pulsions en vue de vendre de la marchandise, évidemment, on a créé un état de fait qui est la destruction de ces appareils de liaison. Et ces appareils de liaison, le premier d'entre eux s'appelle la famille. La famille, qui on peut l'apprendre d'une manière, ce mot la famille en France, vous savez, ça fait vraiment, on tremble quand on emploie le mot la famille, parce que la famille, c'est vraiment les vieux réactionnaires qui parlent de la famille. Hein. Moi, je ne crois pas du tout que la famille soit quelque chose qui concerne les vieux réactionnaires. Il y a une manière de parler de la famille, une manière qu'on appelait autrefois bourgeoise de parler de la famille. Il y a aujourd'hui une manière mafieuse d'ailleurs de détruire la famille. Dans les mafias, on vous dit la famille, ça compte plus. Maintenant, c'est la mafia qui compte. Ce sont les liens de la mafia qui sont plus importants que les liens familiaux. Tu dois pouvoir tuer ton père et ta mère si tu es un bon mafieux. Et donc, la question, c'est en fait les conditions dans lesquelles s'élabore du lien. Si on en croit le psychologue Bowlby, anglais, qui a travaillé sur les enfants orphelins, à Londres, enfants dont les parents étaient tués par les bombardements nazis, etc., et qui les a observés très longuement et qui a écrit un bouquin absolument formidable sur l'attachement et la perte. Bon. Si on en croit Donald Winnicott, qui est beaucoup plus connu et qui a théorisé l'objet transitionnel, mais si on en croit Freud, et si on en croit n'importe quel psychologue ou psychiatre qui fait son travail correctement, un enfant ne peut pas se passer d'une relation parentale. C'est absolument impossible. Absolument impossible. Y compris dans une institution spécialisée, pupille de la nation, etc., où il faut, ce que Winnicott décrit comme étant la mère de substitution, il faut une mère de substitution, bien entendu. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'élaboration d'un désir à partir de la pulsion sans l'appareil familial, alors que cette famille soit la famille bourgeoise ou ça soit une autre forme de famille, c'est impossible. Des gens l'ont nié, Staline par exemple a nié ça. Mais bon, les nazis aussi d'ailleurs. Ce sont des régimes totalitaires. Donc, sous prétexte de ne pas vouloir revenir à des figures réactionnaires, on dit on ne va pas critiquer ce processus que le marketing produit de destruction de l'espace familial comme formation, transformation de la pulsion en désir. Et à ce moment-là, on refuse de critiquer une situation qui conduit à la destruction de l'état de droit et qui impose un état de fait, qui est l'état de fait du marketing qui infantilise tout le monde de haut en bas de l'ensemble de la société. Et je m'inclus dedans, bien entendu. Hein. Ne croyez pas que je me considère personnellement, miraculeusement échappé à tout cela. Personne n'échappe, même pas les juges pour enfants, et c'est tout le problème. Alors, dans cet état de fait, que se passe-t-il aujourd'hui? Comment est-ce que l'enfant roi produit-il l'enfant bouc émissaire? C'est-à-dire comment un enfant roi dit « ces enfants-là, ce sont des voyous, la racaille ». Aujourd'hui, ça se produit par des projets de loi qui visent à culpabiliser les parents. Aujourd'hui, être parent, c'est être potentiellement coupable. Parce qu'on vous dit, maintenant, si vos enfants ne sont pas sages, c'est vous qui irez en cabane et vous paierez 30 000 euros d'amende. 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Projet de loi présenté par M. Ciotti. Je prononce à l'italienne. Qui consiste à dire que les coupables, ce sont les enfants. Et que si les enfants sont coupables, c'est parce que leurs parents sont coupables. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que ces parents, on les a mis dans l'impossibilité de faire leur travail. Et non seulement on les a mis dans l'impossibilité, mais on leur dit de ne surtout pas le faire. Parce qu'on fait une espèce de délégation de service public qui consiste à confier la responsabilité des enfants à la télévision, à tous ces systèmes eux-mêmes au marketing et non pas aux parents. On a court-circuité le rôle des parents et ensuite on menace les parents de les envoyer en prison. 2 ans de prison, 30 000 francs d'amende en France. Vous voyez, c'était le projet de loi. Alors, c'est pas passé, non, bien entendu, mais oui, mais c'est quand même ce qui est dans l'air. Hein, c'est ce qui est dans l'air et c'est un exemple que je donne parmi beaucoup d'autres que vous connaissez et que je ne connais pas, parce que moi je ne suis pas du tout un professionnel de toute question, d'un processus qui consiste à détruire le privilège de majorité. Ce que j'appelle le privilège de majorité, c'est que tout être majeur a le privilège, au vieux sens du terme, c'est-à-dire à la loi, l'accès au droit, hein, le privilège, d'exercer sa majorité, sur qui en l'occurrence? Sur les mineurs. Privilège, voulant dire ici, un droit et une obligation. Pas le droit de donner des fessées, mais le droit de dire, tu es un enfant, ça tu ne peux pas le faire. Ça, tu ne peux pas le faire. Non, tu n'auras pas de bonbons. Non, tu ne... etc. Bon. Ça, c'est quelque chose qui a été remis en cause. Alors là, pour le coup, malheureusement, c'est fait par Madame Dati, lorsqu'elle a remis en cause l'excuse de minorité. Face à l'excuse de minorité, il y a le privilège de majorité. C'est le système kantien, mais c'est le système du droit, d'un droit moderne. Et c'est sur cette base-là que doit être basé un droit de l'enfant. Un droit de l'enfant qui n'a pas les obligations du droit dont on parle. Alors, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le système juridique est pris dans un processus de régression, à tel point que même les anthropologues et les très grands avocats ont l'air de dire « Non, non, il ne se passe rien, tout va très bien, madame la marquise. » Eh bien, il se passe que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec cette évolution consumériste, quelque chose qui relève, et c'est une évolution systémique, je dis bien systémique, au sens où on a parlé d'ailleurs de crise systémique de la finance mondiale, et au sens où René Passet, qui est un économiste, qui a écrit l'économique et le vivant, parlait d'une crise systémique inévitable du modèle de croissance occidental, c'était en 1979, et il décrivait pas mal de choses qui se sont passées en 2008. C'est-à-dire 29 ans plus tard. Et il disait, inévitablement, ce système conduit à produire des passages aux limites. Cette expression de passage aux limites, là, il ne l'emploie pas du tout dans le sens de la psychanalyse ou du borderline, il l'emploie dans le sens de la théorie des systèmes. En théorie des systèmes, un passage aux limites, c'est ce qui se produit lorsqu'un système, dynamique, hein, là je parle de système dynamique, par sa propre dynamique, en arrive au stade où il détruit les conditions de fonctionnement de son propre fonctionnement. Parce que pour pouvoir continuer à fonctionner, il est obligé de détruire les conditions, alors à une échéance plus ou moins longue, de son fonctionnement. Par exemple, aujourd'hui, pour fonctionner, le système industriel mondial est obligé d'épuiser les ressources en hydrocarbures, et à un terme, il y a une limite, donc il va forcément s'effondrer, s'il n'est pas capable d'élaborer un autre système entre-temps. Ce qui se passe avec la démographie, nous dit René Passet, c'est pareil. Il y a un processus d'explosion démographique qui fait qu'il y a des choses qui sont insoutenables parce que les croissances sont devenues, et c'est ce qu'il appelle les croissances hyper-exponentielles, c'est le taux de croissance qui devient exponentiel lui-même. Donc c'est quelque chose de totalement ingérable et ça fait exploser la cohérence du système. Un système juridique, il est pris dans un système politique, un système économique, un système familial, un système linguistique, un système religieux, etc. etc. Et tous les faits humains sont des faits systémiques qui sont pris dans d'autres systèmes. Tout ça est lié. Si on n'analyse pas l'ensemble, on ne comprend rien. Quand on est dans des processus systémiques de ce type-là. Aujourd'hui, c'est l'ensemble qui est en crise. Et il est en crise, non seulement pour les raisons que décrit René Passet, explosion du passage aux limites dans le domaine démographique, passage aux limites dans le domaine des hydrocarbures, passage aux limites dans toutes sortes de domaines, dont le domaine financier, ça il n'avait pas vu. Mais là maintenant nous l'avons nous très très bien vu malheureusement. Et ça n'est pas du tout fini. Le moment où l'investissement devient purement spéculatif et ne peut pas être autre chose que spéculatif, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un système qui n'est plus capable d'investir, par exemple, en disant « oui, il faudrait passer à autre chose que l'hydrocarbure, donc on va investir et pas gagner de l'argent tout de suite ». Je soutiens pour ma part que ça crée un passage aux limites au niveau du système psychosocial. Et je dis bien psychosocial parce que je ne crois pas qu'on puisse séparer le psychique du social, ni l'inverse. Même si depuis la fin du XIXe siècle, l'organisation de l'université, selon la théorie des facultés, a conduit à une faculté de psychologie, une faculté de sociologie, une faculté de géographie, etc., une faculté d'économie, en réalité, ces phénomènes sont absolument indissociables. Et évidemment, la psyché d'un enfant, par exemple, pour revenir à notre sujet fondamental, eh bien, la construire, c'est la socialiser. C'est-à-dire que faire un travail psychique avec l'enfant, c'est faire un travail sociologique et pas simplement psychologique. Et on ne peut pas séparer ces deux choses. Mais si le social est lui-même traversé de part en part par l'économique, alors il faut arriver à articuler ce que j'appelais tout à l'heure la production d'énergie libidinale, c'est ce que Freud appelait l'économie libidinale, avec l'économie des subsistances, avec l'économie du renouvellement, de mon stock de molécules d'eau, mon accès à l'oxygène, bref, les conditions vitales de mon existence et de l'existence d'une société. Et ça suppose d'articuler ces deux économies. Je pense que le droit sert à ça. Je pense que le droit est un espace de régulation de ces deux dimensions-là, aujourd'hui, bien entendu, beaucoup plus qu'avant. Chez les Grecs, c'est des questions qui ne se posent même pas. Les Grecs considèrent que l'économie, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est le problème des esclaves. Ça ne les intéresse absolument pas. Donc la conception grecque du droit, qui est notre point de départ, ne se pose absolument pas à ce type de questions. Les Romains commencent un petit peu à se poser ces questions. Mais c'est surtout le droit, tel que nous le connaissons depuis les Anglais, depuis Montesquieu, etc., qui, lui, va véritablement poser ce problème. Et à partir du moment où la société devient industrielle et où l'industrie est ce qui va reconfigurer les comportements individuels, parce que c'est ce à quoi on arrive au XXe siècle avec le neveu de Sigmund Freud, alors on ne peut absolument plus comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe dans le champ du droit et de la pression qui est exercée par le monde économique sur les députés en particulier pour faire évoluer le droit, dans un sens ou dans un autre, si on n'inscrit pas les questions d'économie libidinale et les questions d'économie industrielle dans une étroite relation. Actuellement, le passage aux limites que nous connaissons, conduit à la destruction de l'appareil psychosocial et donc de l'appareil juridique qui est en quelque sorte une espèce de méta-appareil psychosocial, porté au niveau de la nation et au niveau de la responsabilité collective qui s'exprime dans ce qu'on appelle des lois. Tout cela conduit à une époque profondément réactionnaire au sens, je dirais, presque biologique du terme, c'est-à-dire réactionnelle. Comme disait Gilles Deleuze, vous donnez un coup de pied à un chien, il vous mord. C'est ça, d'abord, être réactionnaire. Et c'est-à-dire plus de temps de réflexion, ce qui conduit à une société ultra-régressive, à tous les niveaux, dénégatrice, où même des très grands intellectuels disent « Mais non, tout va très bien, madame la marquise. » Et du coup, dans une société où il n'y a plus aucune critique sociale. Ou dans une société où on ne peut plus rien critiquer sans se faire accuser immédiatement d'être un archaïque ou un réactionnaire soi-même. Tout ça aboutit à des processus qu'on appelle donc de dénégation. Et ces processus de dénégation, eh bien, comme toujours, à un moment donné, ils mettent en place des boucs émissaires. Car le meilleur moyen de faire de la dénégation, c'est de fixer l'attention sur une victime pour la faire passer pour le bourreau. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Les boucs émissaires, aujourd'hui, ce ne sont plus simplement les immigrés. Malheureusement, les pauvres le sont encore, même, je dirais, plus que jamais. Et les enfants d'immigrés, encore plus que les immigrés. Mais ce sont les enfants en général, et non seulement les enfants en général, qui sont soupçonnés du fait d'être un enfant, d'être a priori un coupable, et les parents de ces enfants, lorsqu'ils ne se sentent plus en mesure de prendre en charge le plan symbolique dont ils sont en charge. Ce dont le parent est en charge, c'est le plan symbolique au niveau de l'affect, la loi étant un autre plan symbolique sur un plan désaffecté et formalisé, critiquable précisément par un appareil qui s'appelle le droit en tant que droit politique. Chez nous, il est une démocratie et qu'il y a de la jurisprudence, etc., etc. Je prends le mot symbolique, cela dit ici, au sens, alors là, pour le coup, vraiment, de Jacques Lacan. Qu'est-ce que l'autorité parentale et en quoi faut-il la protéger? En ceci que l'autorité parentale, c'est ce qui sert à construire du surmoi. Sans autorité parentale, je pose ça comme un principe absolument non négociable. Alors après, quelle est la forme de la parentalité? Ça, c'est une autre question. Par exemple, est-ce que la parentalité, l'homoparentalité est acceptable ou pas? C'est une toute autre question. Et là-dessus, j'ai des positions extrêmement nuancées, qui peuvent peut-être d'ailleurs rejoindre certaines fois celles de Maurice Godelier. Mais dans tous les cas... Pardon ?
C'est une réalité.
Et c'est une réalité qu'il faut prendre en charge juridiquement, absolument, tout à fait. Non, moi je ne suis pas du tout opposé. Mais je dis que c'est une autre question, une autre question que je n'aborde pas aujourd'hui. Mais dans tous les cas, si nous avons besoin d'une parentalité qui symbolise la différence des générations, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est parce que nous avons besoin de construire du surmoi. Une société sans surmoi n'est absolument pas possible. Et cette société surmoïque, elle est extrêmement complexe parce que, j'ai essayé de le soutenir dans un de mes livres, dans un chapitre qui s'appelle le complexe d'Antigone, pour que la loi puisse être respectée comme une loi, il faut pouvoir la transgresser. Il faut que Antigone puisse dire à un moment donné à Créon, non, tu te trompes. Toi, l'autorité légitime, et bien en fait, tu ne l'es pas légitime, et c'est moi qui le suis. Et il faut qu'elle se sacrifie, il faut qu'elle puisse se sacrifier. C'est évidemment très compliqué, j'avais parlé de ça à propos des attentats de Londres, qui avaient fait 300 morts, dans, vous savez bien, hein, à l'époque, il y a 5 ans maintenant, ou 6 ans, avec des militants intégristes, voilà, qui avaient fait sauter des bus. Donc c'est de la dynamite, c'est le cas de le dire, hein, ces questions. Mais en tout cas, cette question du surmoi, c'est comme ça qu'elle doit être posée, et on ne peut pas penser le droit sans poser le problème du surmoi. Le surmoi ne peut pas être transmis ni par un juge, ni par un instituteur, il est transmis par un dispositif intergénérationnel. Qu'ensuite, ces structures sociales, la justice, l'éducation nationale, etc., viennent soutenir, car elles doivent être soutenues jusqu'à la fin. Si on ne les soutient pas, elles s'effondrent. La catastrophe dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en France en tout cas, c'est que nous avons un appareil politique qui les discrédite. Qui discrédite les parents, qui discrédite les instituteurs, qui discrédite les profs en général, qui discrédite les juges, les policiers, etc. C'est d'une gravité incroyable. Et je suis stupéfait de l'absence de réaction du monde intellectuel à ces questions. En fait, c'est parce qu'il est lié par ses a priori et ses craintes et ses propres dénégations. Alors, je ne voudrais pas parler trop longuement, parce que je crois que... Je ne sais pas combien de temps, monsieur... J'ai déjà dépassé mon temps de parole, peut-être. Pardon ? Moi, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là, mais bon. Bon, je vais peut-être ajouter un tout petit mot, si vous voulez, puis peut-être qu'on pourra participer un petit peu à la discussion. J'ai malheureusement l'obligation de partir impérativement, normalement dans 10 minutes, mais bon, peut-être un quart d'heure. Je voudrais juste ajouter 2-3 mots, si vous voulez bien. Je soupçonne... Quelque chose m'a traversé l'esprit il y a peu de temps, en préparant cette intervention. Je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir vous dire, qui ait un peu de sens et qui ne soit pas complètement coupé de vos réalités, qui me dépassent beaucoup. Je soupçonne que, vous voyez, c'est comme dans, même ici, c'est comme dans les classes, on a du mal à avoir le silence. Ah d'accord, c'est de la traduction, d'accord, je ne savais pas ça. Pardonnez-moi. Non, je me disais, c'est pas possible, pas dans une enceinte de juge, quand même. Je soupçonne, pardonnez-moi, je soupçonne que aujourd'hui, les relations intrafamiliales deviennent ce qu'elles sont déjà devenues entre parents et enfants d'un côté, enseignants de l'autre, c'est-à-dire des relations de service. Je veux dire par là que vous savez bien que c'est malheureusement une réalité. De plus en plus, aujourd'hui, les parents, c'est normal, les députés le leur disent à longueur de journée, considèrent qu'une école, c'est un service, au sens où, par exemple, je ne sais pas, une entreprise de tourisme est une société de service, vous voyez, hein, le tourisme de masse ou des choses comme ça. Donc, j'ai payé mes impôts, j'ai droit à ça. J'ai droit à ça et en tant que je deviens un consommateur d'école. Donc mes enfants sont là pour consommer du résultat. Moi, en tant que parent, j'exige satisfaction quant à ce service. Et en aucun cas, par exemple, je ne peux imaginer que l'école, c'est peut-être un endroit où je suis mis en question par l'école. Où je ne suis pas du tout... On ne m'apporte pas quelque chose, on ne m'apporte pas un bien et un service, mais on me met en question. On me fait, en quelque sorte, on requiert de moi un effort fondamental de mise en question... Et un effort qui peut être accepté par l'élève parce que l'enseignant lui-même est dans cet effort. Ça paraît aujourd'hui dire que l'école est un lieu où l'enseignant fait des efforts avec des élèves qui font des efforts et que tout le monde se respecte parce qu'on sait que ça repose sur l'effort, comme dans une cordée d'alpinistes par exemple. Hein. Bon, vous ne partiriez pas avec un alpiniste en cordée dont un vous dira « Ah non, moi je ne fais pas d'efforts. Bon, » c'est inconcevable. Mais faire l'école, c'est pareil. Faire l'école dans un espace où les enfants vous disent « Ah non, moi je ne fais pas d'efforts », c'est inconcevable. Ben oui, mais c'est ce que les parents disent à leurs enfants aujourd'hui. C'est ce que les parents vous disent quand vous êtes prof. C'est-à-dire, mon enfant, il n'a pas à faire d'efforts, c'est vous qui ne faites pas votre boulot. C'est quelque chose comme ça qui se dit. Alors ça, c'est un sujet qui est un petit peu en dehors de notre discours. Mais si j'en parle, c'est parce que je me demande si on ne voit pas apparaître ça dans les familles. c'est-à-dire des relations entre parents et enfants, où on voit des enfants qui revendiquent de leurs parents tel type de service. Et où on voit des parents qui se mettent dans leurs enfants en tant que fournisseurs. Et où, en fait, on a intériorisé quelque chose qu'un ami de M. Dominique Strauss-Kahn, qui s'appelle Denis Kessler, fondateur du MEDEF, avait appelé devenir entrepreneur de soi-même. C'est-à-dire que la famille devient une entreprise d'élevage d'enfants, comme dirait Peter Sloterdijk. On doit non pas éduquer ses enfants, mais les élever comme on élève ses chèvres. Et il faut savoir obtenir de telle quantité de lait par jour, etc., etc. Tout ceci est un processus qui conduit en fait à une intériorisation du modèle consumériste tel, j'ai travaillé dans les musées, bon, j'ai constaté ça sur les visiteurs de musées, qui regardent les tableaux comme ils zappent à la télé. Hein, ils ne savent plus du tout regarder un tableau. C'est difficile de regarder un tableau. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose. Et c'est pas du tout la même chose que de regarder les informations de TF1 en zappant d'une chaîne à l'autre pour voir un peu plus de misère que sur cette chaîne. Et ça, c'est ce que tout le modèle juridique, je crois qu'on en a parlé avant, moi j'étais pas là malheureusement, mais tout le modèle, et vous en avez parlé monsieur, tout le modèle juridique qu'on essaye de nous imposer, qui est en fait un modèle ajuridique pour moi, sans droit, où on essaye de liquider ce qui constitue à proprement parler le droit, eh bien est en train de s'adapter à cet état de fait consumériste où chacun doit devenir entrepreneur de lui-même en se moquant des autres, parce que l'entrepreneur de lui-même c'est celui qui se moque des autres. Qu'il ne sait pas, c'est qu'en se moquant des autres, il se moque de lui en réalité, de lui-même, parce qu'il est quand même un être social et on ne peut pas vivre longtemps hors de toute société. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a rencontré un taxi qui nous a emmené ici avec mon épouse et qui nous a dit qu'il était parti, il avait ramassé un gros paquet d'argent en tant que DRH licencié par un grand groupe et puis il s'est aperçu qu'en fait, non, c'était pas... Il avait la belle vie, il vivait au Brésil avec de l'argent, etc. Puis il s'est aperçu que non, c'était pas possible, il avait besoin de société et de travailler. Vous voyez, c'est intéressant. Alors bon, J'aurais pu continuer longtemps, j'aurais voulu vous parler de deux grandes éminences du Parti Socialiste, Mme Lindemann et M. Quilles, qui ont porté plainte contre un producteur de télévision qui a, dans une émission qui posait, il est vrai, en effet, quelques problèmes, qui s'en est pris à ce système. Ce producteur de télévision a fait cette émission qui s'appelait Le jeu de la mort, où il a simulé l'expérience de... comment s'appelle-t-il ? J'arrive plus à retrouver son nom. Enfin, cette expérience où... Pardon ? De... 2000 grammes, exactement, où on pousse quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre, et il a fait ça en direct, enfin pas en direct, mais et on voit les gens le faire. Alors monsieur Quilles, un grand président de région socialiste actuel, Madame Lindemann, elle aussi, tous les deux anciens ministres du Parti Socialiste, ben, ils ont pris la défense d'Anne Desmolles, vous voyez, c'est bizarre quand même. Ça s'appelle aussi de la dénégation, et ça s'appelle du court-termisme politique, c'est-à-dire qu'on se dit, ah mais c'est pas bien de s'en prendre à ces pauvres Français qui regardent la télévision. C'est contre le peuple. Mais qui est contre le peuple ici? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le peuple? Le peuple, c'est ce qu'on respecte. C'est ce à quoi on fait confiance sur sa capacité à être majeur. C'est celui auquel on s'adresse comme un parent capable d'élever ses enfants, et non pas comme un débile mental qui ne peut que suivre la politique d'Anne Desmolles, qui est une politique de généralisation de la pulsion à la télévision. Et je suis atterré de voir que toute la classe politique, en fait, et que la plupart des intellectuels français sont finalement des complices de tout ce système, et donc protestent peut-être contre les propositions de loi de M. Ciotti, mais en fait n'analysent absolument rien pour s'y opposer sur le fond. Je vous remercie de votre attention.
Il faut l'allumer, oui.
Oui. C'est quand même l'hypothèse depuis quelque temps qu'aucun gouvernement n'a intérêt à avoir une justice qui fonctionne, hein, que ce soit de la droite ou de la gauche, et je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette hypothèse.
Redoutable question, je me dis. Redoutable question. Il faudrait se poser la question de l'intérêt. Moi, la question de l'intérêt, je la temporalise toujours. Mon intérêt à court terme est rarement mon intérêt à long terme. Ça arrive. Mais c'est très très rare. Bon, ça, c'est certain que par exemple, mon intérêt à court terme de respirer de l'oxygène est aussi mon intérêt à long terme. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour beaucoup de choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut inscrire les intérêts dans le temps, sur une échelle de temps. Tout simplement parce que nous vivons dans des sociétés qui se transforment en permanence. Donc les intérêts évoluent nécessairement. Et ce qui est votre intérêt aujourd'hui, ce sera peut-être le contraire de votre intérêt demain. Et peut-être qu'en cultivant votre intérêt d'aujourd'hui, vous accumulez ce qui va vous handicaper demain. Par exemple, vous accumulez des toxines ou toutes sortes de choses comme ça. Je pense qu'en politique, c'est aussi vrai. Et que toute la question est de savoir à quelle échéance de temps vous parlez. Par exemple, pour Mme Lindemann et M. Quillès, si leur échéance de temps, c'est la prochaine élection présidentielle, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Moi, je pense qu'ils ont tort, en réalité. Parce que je pense que les politiques qui, aujourd'hui, seraient capables de vraiment être appréciés par les Français, ce sont les politiques qui s'intéressent à l'intelligence des Français au niveau le plus exigeant. Mais évidemment, pour faire ça, il faut être capable d'être soi-même très intelligent. Donc ça suppose de travailler, et pas simplement se contenter de lire les chroniques des journaux en se disant comment je m'adapte à la dernière, au dernier discours du journal Le Point ou de l'Humanité ou je ne sais quoi. Alors, dans un temps politique où on va cultiver non pas sa carrière politique, mais les idées qu'on défend dans le temps, je pense qu'à long terme, le politique a intérêt à soigner le long terme, donc la loi, donc le droit. Bien entendu, ce dont vous m'avez parlé, c'est du gouvernement. Et ce n'est pas la même chose. Vous voyez, actuellement, il y a des primaires qui se préparent, paraît-il, à gauche. Je pense que c'est une catastrophe, parce que c'est délégué aux citoyens un travail qui aurait dû être fait par un parti. Je ne suis pas du tout au Parti Socialiste, moi, mais c'est dans aucun parti, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu pareil ce qui s'est passé à l'UMP il y a quelques années avec M. Sarkozy, et c'est ce qui se passe dans tous les partis, y compris le Parti communiste aujourd'hui. Il n'y a absolument plus aucune théorie. Il y a simplement des systèmes. D'ailleurs, l'actuel secrétaire national du Parti communiste français, c'est l'ancien secrétaire à la communication, vous voyez, à la publicité du Parti communiste français, ça en dit long. Je ne dis pas ça contre lui, c'est peut-être un monsieur très bien, mais que ce soit cette fonction qui ait pris le contrôle de ce parti, c'est très éloquent. Dans un gouvernement, évidemment, la question se pose différemment, parce qu'un gouvernement, par principe, il a besoin de durée. Hein, ça, c'est évident, il cherche la durée. Mais, en même temps, si le gouvernement est politisé au meilleur sens du mot, politisé voulant dire ici qu'il défend des positions sur l'avenir, il doit être capable de perdre le pouvoir pour mieux le retrouver plus tard. Et à ce moment-là, un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui va être capable de mettre en œuvre des forces politiques qui vont être capables d'aller au-delà du... Parce que finalement, on dit toujours gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que gouverner, c'est produire du long terme. C'est ça, prévoir. C'est prévoir à long terme. À court terme, c'est pas de la prévision, c'est ce qu'on appelle les opportunités dans le monde économique. Donc, voilà, si on continue à croire, c'est mon cas, qu'on peut gouverner politiquement, et non pas en faisant du marketing politique, ce qui n'est pas du tout la même chose, alors je pense que si, malgré tout, un bon gouvernement, c'est celui qui est capable de défendre le droit, vraiment sur le fond. Maintenant, on est peut-être dans une période très très spécifique. Parce que, non seulement on est peut-être, mais moi j'affirme que nous sommes dans une période absolument spécifique, nous sommes dans une période de crise systémique. Pas simplement de la crise financière ou de la crise économique. Nous sommes dans une crise de civilisation systémique, ce qui est extrêmement angoissant d'ailleurs, c'est une extrême dangerosité. Et là, toutes les catégories, tous les axiomes, tous les théorèmes qui ont servi à définir ces processus critiques, je prends au sens de discernement, hein, de capacité de prise de décision, de délibération, comme il y en a dans des tribunaux comme ici, sont entrés en crise. Ça, crise veut dire d'ailleurs, une crise, c'est ce qui définit de nouveaux critères, hein, c'est ce qui est en train d'élaborer de nouveaux critères. Étant donné que les critères nouveaux ne sont pas encore là et que les critères anciens ne fonctionnent plus, évidemment, les gouvernements sont dans la panique totale et font absolument n'importe quoi. Donc on a l'impression qu'ils ont totalement perdu le Nord, ils deviennent ultra pragmatiques. L'avenir, s'il y en a un, appartiendra aux politiques capables de penser ça, de le donner à comprendre à ses concitoyens et de faire que tout à coup, de l'intelligence revienne dans le comportement politique. Peut-être que c'est inenvisageable sans que ça passe par une catastrophe sociale, par exemple l'année prochaine en France. Ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez.
Il y a d'autres... Oui. Vous avez assez vite, vous
dites. Non, mais on va laisser d'abord.
Une de vos sources, Donald Newcott, développe l'idée que dans la société, les Français prennent un niveau de maturité des individus. presque statistique hein, dans son article, qui est nécessaire pour comme une sorte de garantie de la possibilité de l'existence d'un fonctionnement démocratique d'une société. Est-ce que les idées donc, sur la régression hein, que vous avez bien développées aujourd'hui, finalement rejoignent quelque chose de cette idée-là, et donc en développant la société qui n'aura plus des prémices nécessaires, des bases nécessaires pour un fonctionnement démocratique?
Oui, oui, tout à fait. C'est exactement. En fait, c'est exactement ce que je pense. Et c'est exactement ce que j'essayais de donner à penser. Donc, apparemment, ça a fonctionné. J'ai eu il y a quelques semaines, un débat public avec un philosophe français qui s'appelle Jacques Rancière. Il a été public par deux fois, puisqu'il a d'abord été dans le journal Libération. Libération avait lancé une enquête sur le populisme. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés à cause de ces articles dans le journal Libération sur un plateau de télévision, tous les deux. Et Jacques Rancière a fait partie, pour moi, des dénégateurs. Il dit le populisme, ça n'existe pas. Les gens qui disent, qui parlent de populisme, ce sont les gens qui n'aiment pas le peuple. Bon. Je peux comprendre très bien ça. Moi, je suis un homme du peuple, d'ailleurs. Je viens de ce qu'on appelle le peuple. Sauf que quand on parle de populisme, on n'est pas en train de faire des dissertations sur ce que c'est que le peuple. On est en train de décrire des processus régressifs. Et alors, un de ceux qui a décrit ces processus régressifs, qui était un homme réactionnaire en effet, qui s'appelait Gustave Le Bon, a été la source d'inspiration de Sigmund Freud, dans Psychologie des foules, analyse du moi. Et donc, Jacques Rancière arguait du fait que Monsieur Le Bon, que Gustave Le Bon était un vieux réactionnaire, pour dénier que les foules soient régressives. Mais une foule est évidemment régressive. C'est absolument évident. N'importe qui a déjà vécu une situation de foule sait qu'une foule est régressive. C'est une évidence absolue. C'est constaté par n'importe qui. Et par n'importe quel observateur, même empiriquement, je veux dire. Or, c'est d'ailleurs un des arguments des films, par exemple, de John Ford, vous voyez, quand il y a des gens qui veulent pendre, c'est un des problèmes de la justice, justement. On va pendre, on va faire une exécution sommaire, on a un coupable, on va... Jacques Rancière dit non, ça n'existe pas, il n'y a pas de régression. Bon. Et si je vous en parle, c'est pas pour me chamailler avec M. Rancière, c'est parce que M. Rancière défend pareil une certaine idée que la démocratie va très bien. Moi, c'est ce que j'appelle Madame la Marquise. C'est-à-dire, tout va très bien, Madame la Marquise. La démocratie va bien, les enfants, il n'y a aucun problème, le politique, ça fonctionne, tout va bien, il n'y a aucun problème. Le nucléaire, ce n'est pas un problème, bon, non, il n'y a aucun problème. C'est de la démission, ça s'appelle de la démission politique, et de l'immaturité. Et de la part de grands intellectuels de ce niveau-là, c'est absolument effrayant. Alors oui, je suis convaincu de cela. De plus en plus, je lis Winnicott personnellement. Je me réfère à Winnicott de plus en plus comme ma référence. Quand je ne comprends plus quelque chose, je vais lire du Winnicott. Voilà, parce que je pense que c'est un homme qui a eu par la clinique une intelligence extraordinaire d'un nombre extraordinaire de choses, ainsi que Bowlby, ce psychologue qui est très proche de lui. Voilà. Donc je suis bien entendu d'accord. Là, je suis obligé de partir, me dit mon épouse.
Je peux vous poser une question?
D'accord. Ah, c'est la dernière.
Je vous pose une question. Donc, je suis la défenseur des enfants, hein, sur quelques temps encore. Je voulais juste... je trouvais d'abord merci. Hein, vous avez dit bien mieux que je ne l'avais fait avant, tous ces raisonnements, parce que c'était mon analyse en tant que défenseur des enfants. Et je voulais juste, quand vous avez dit les parents deviennent des fournisseurs de services, moi ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des consultations auprès de jeunes de 12 à 17 ans, et je leur ai demandé de faire des constats et des propositions. Bon, ils sont remarquables d'ailleurs. Et sur la question par exemple de l'Internet, Internet et vie privée, qui met en péril le droit fondamental au respect de la vie privée, ils ne s'en rendent pas compte d'ailleurs, ni les parents qui sur Facebook mettent les photos de tous leurs enfants sous toutes les formes, etc. Et les enfants ont dit, les adolescents ont dit, c'est un nouveau territoire, en fait, c'est notre territoire, c'est là où ils vivent pendant des heures et des heures, et là, les parents ne sont pas là pour nous fixer nos limites. Et c'est très intéressant parce que beaucoup de délits, voire pas plus, enfin, d'actes contraires à la loi, sont commis par des enfants à travers les nouvelles technologies. Et ils ne mesurent pas que ça peut être l'origine d'un acte qui va les amener devant un juge, mais les parents non plus, et personne finalement. Et donc on croit qu'en fournissant des services, d'ordinateurs, etc., en les laissant dans leur chambre, on est tranquille. Et en fait, on est devant des enfants qui, un, peuvent commettre des actes graves, dont ils ne comprennent pas, parce que taper sur quelqu'un, ils comprennent que c'est pas bien. Mais diffuser la photo de sa copine à poil ou en train de faire l'amour, il n'est pas tout à fait sûr que ce soit vraiment grave. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le sentiment aussi, et ça correspond sûrement à tout, c'est tellement accéléré que personne ne comprend qu'il y a un lieu qui, où, pour la première fois dans l'histoire sans doute de toutes les générations précédentes, des parents ne savent pas dire à leur enfant quoi faire sur un territoire parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas exploré comme parents. Voilà, c'est... Moi, ça fait...
Ça, c'est une question extrêmement importante, dont d'ailleurs nous parlerons cet après-midi à l'association Ars Industrialis, parce que je voudrais vous préciser que je suis président de l'association Ars Industrialis, et c'est en tant que tel que je suis venu aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons faire une session au théâtre de la Colline, qui est consacrée à ce que nous appelons les technologies relationnelles. Les technologies numériques, d'une façon plus générale, sont en train... Vous savez qu'on parle de génération du numérique, les natifs du numérique... Moi, j'aime bien rappeler à ma génération que nous sommes des natifs de l'analogique. Ça a aussi transformé nos comportements. Et il faudrait... Alors, c'était moins rapide et peut-être moins saisissant. Nous n'avons pas transformé en 3 ans. Nous n'avons pas fait la 3e communauté mondiale sur Facebook avec l'audiovisuel. Mais néanmoins, ça a eu de très, très grands effets. Et surtout, puisque là, je suis devant une enceinte de juges et de juristes, le droit repose sur une technologie relationnelle. L'écriture est une technologie relationnelle. Qui d'ailleurs s'est transformé à l'époque de la Réforme et de la Renaissance avec son imprimerie, qui a donné lieu à un nouveau droit, passant par une nouvelle religion, une guerre de religion, etc. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs ce que je voulais, parce que je ne suis pas arrivé au bout du texte que j'avais préparé pour cette communication, c'est vers là que je voulais aller, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel que le droit revienne vers la question de ses supports techniques de constitution, ses conditions techniques de fonctionnement. En effet, l'Internet est un nouvel espace public, en réalité.
Bah oui.
Parce que c'est un nouvel espace de publication. Pour qu'il y ait espace public, il faut qu'il y ait publication. C'est ce qu'a montré Jean-Pierre Vernant en France sur le droit grec. Bon. Et aujourd'hui, on a un nouvel espace de publication qui se met en place, et il n'y a aucun débat, en tout cas au plan politique ou au plan universitaire, sur la nouvelle question de droit qui s'y pose, et qui n'est pas une question de droit d'auteur, comme on dit. Bon, il y a évidemment toutes ces questions-là, mais beaucoup plus fondamentalement, il y a une méta-question des technicités de publication qui constituent un état de droit, ou qui détruisent un état de droit. Et ça, c'est une question évidemment fondamentale. Malheureusement, je suis obligé de partir, là, vraiment. Mais moi, je suis partant pour qu'on en reparle, si vous le souhaitez.
C'est fondamental, pour les enfants. Et...